أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشخص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, avant de venir à mon sujet concernant le savoir, je voudrais d'abord faire une petite parenthèse sur notre septième imam al-Islam, puisque c'était son shahadat hier. Et comme vous savez, nous avons là quatre nuits consécutives où nous avons des célébrations, des commémorations. Donc hier soir, nous avons célébré le shahadat de notre septième imam. Cette nuit, nous commémorons le shahadat de Hazrat Abu Talib, le père d'Imam Ali al-Islam et l'oncle de notre prophète. Et puis, demain soir, ce sera le Mi'raj, donc une grande fête chez nous qui marque l'ascension du prophète quand il est allé visiter les cieux. Et enfin, le 28 Rajab, c'est-à-dire le vendredi soir, c'est le jour du départ d'Imam Hussein. Parce que vous savez que avant qu'Imam Hussein parte, donc quand il est parti pour Karbala, le 28 Rajab, c'est le jour où il a quitté Médine. D'accord ? Donc nous commémorons ce départ d'Imam Hussein a.s. et de sa caravane, de ses compagnons. Donc, une petite parenthèse sur notre septième imam, donc, dont nous avons célébré le shahadat hier soir et dans la journée d'aujourd'hui. Alors, d'abord, par rapport à son titre, Al-Kazim. Al-Kazim, ça veut dire celui qui contient, celui qui retient sa colère. Pourquoi ? Parce que Imam al-Islam est resté la grande majeure partie de sa vie en prison. Et comme vous savez, quand on est dans la souffrance, quand on souffre, quand on a une douleur, peut-être que vous avez eu dans votre famille des personnes qui ont été atteintes d'un cancer ou d'une maladie très grave et qui fait très très mal, ou dans lesquelles les personnes souffrent. Moi personnellement, j'ai déjà eu dans ma famille une personne de la famille qui justement souffrait énormément. Et ça se reflétait sur son humeur. Ce n'est pas que cette personne était devenue méchante, ni qu'elle avait envie d'être méchante envers nous. Mais comme la personne souffrait tellement à l'intérieur de son corps, à l'intérieur d'elle-même, ça se répercutait. Des fois, elle disait des choses qu'il ne fallait pas dire, par exemple à son épouse. Mais ce n'était pas par méchanceté. Des fois, si quelqu'un d'étranger venait, elle se serait dit, mais comment est-ce qu'il s'adresse à sa femme? Ça ne se fait pas. Mais en fait, la personne souffrait énormément. Et quand on souffre, on a du mal à retenir sa colère. Notre humeur change. Mais malgré les souffrances d'Imam al-Islam, il était toujours de bonne humeur. Il ne devenait pas furieux. Il n'était pas en colère. Et c'est justement ce qui marquait les gens. Ce qui marquait les gens et d'où son titre. D'accord ? Donc, durant l'imamat de notre septième imam, il y a eu quatre califes qui ont dirigé l'État islamique. Donc, le premier calife s'appelait Mansour Dawanaki. Mansour Dawanaki était quelqu'un qui était très cruel. Il a fait beaucoup de zulm, il a beaucoup torturé les descendants de notre saint prophète, ce qu'on appelle les Sayyid, hein, les Sadat. Et les partisans d'Imam Ali al-Islam. Mais sa personnalité était très bizarre parce qu'il était très avare. Il ne dépensait pas beaucoup. En tant que calife, en général, les califes mettent des vêtements en soie, de beaux habits, etc. Mais lui, il ne dépensait pas dans les habits. Il mettait des habits un peu comme les pauvres. Vous savez, les habits épais, rugueux, etc. Il ne portait pas des beaux habits comme les autres califes. Et puis, il économisait. D'ailleurs, son nom de Wanaki, ça vient de Danik. Danik, ça veut dire un centime, un sou. Parce que, justement, là, je vous ai mis l'image de Picsou, parce que ça me fait rappeler Picsou. Il était derrière, en train de rassembler chaque petite pièce, chaque petit sou. Hein. Et d'ailleurs, vous savez que quand on est calife, on reçoit tout le mal, toute la trésorerie publique. Toute la population paye les impôts, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait ? Il rassemblait tout cet argent dans une grande salle qu'il gardait secrète, qu'il gardait fermée. Et au lieu de distribuer normalement, cet argent devait être distribué aux pauvres, aux nécessiteux, aux orphelins, aux veuves, aux personnes qui ont besoin. Il fallait utiliser cet argent pour construire des hôpitaux, des écoles, etc. Au lieu de dépenser cet argent, il était tellement avare qu'il le collectait, il le ramassait dans une grande salle. Et donc, quand il décède et son fils Mehdi prend le pouvoir, donc qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la salle et il dit aux gens, venez récupérer vos biens. Il dit, demande au propriétaire, il rend tout ce que son père a assemblé, a collecté dans la salle, il le rend au propriétaire. Mais au bout d'un an, quand il a pris ce pouvoir, au bout d'un an, il devient comme son père et il devient aussi cruel que son père. Ensuite, il y a Hadi qui vient au pouvoir. Et enfin, Haroun Rashid, que vous connaissez très bien, qui est très connu en tant que calife. D'ailleurs, aujourd'hui encore dans les manuels d'histoire où on parle de l'islam, on retrouve le nom de Haroun al-Rashid. Hein, Haroun al-Rashid est très connu. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la littérature arabe, mais la littérature arabe s'est beaucoup développée du temps de Haroun al-Rashid. Et il était beau vivant, il organisait beaucoup de fêtes, etc. Et d'ailleurs, la littérature à son époque était très crue, était sans pudeur, hein, si vous avez un peu de nouvelles de son époque. Donc Haroun al-Rashid, très cruel, mais très connu. Un jour, Imam al-Salam était parti pour le Hajj. Et Haroun al-Rashid le menace de le tuer entre les monts de Safa et Marwa. Hein. Et quand il le menace, donc le vizir de Haroun al-Rashid, qui est à côté de lui, lui dit je ne te conseille pas de faire un tel acte, parce que, après tout, il s'agit de la maison d'Allah et ce serait un manque de respect envers le sanctuaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous êtes un calife qui régnait au nom de l'islam. Et donc il dit la vérité en face à Haroun al-Rashid. Parce que Haroun menace de tuer Imam entre les mains de Safa et Marwa. Les gens autour de lui sont étonnés. Ils se disent, mais ils sont étonnés de la réaction et du fait que le vizir, il ose dire ça au calife, alors que normalement on doit rester soumis, on ne doit rien dire, on doit obéir aux ordres du calife. Et à ce moment-là, le vizir répond par ce que Imam Ali dit dans le Nahjul Balagha. Imam Ali dit dans le Nahjul Balagha que dans toutes les guerres dans lesquelles j'ai combattu, dans toutes les guerres dans lesquelles j'ai participé, je n'ai jamais eu besoin ni d'aucune arme, ni d'aucune armée. Pourquoi? Parce que dit, la seule chose sur laquelle je comptais, c'était ma foi et ma confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que je sais très bien que seul Allah subhanahu wa ta'ala sait à quel moment je vais mourir. Et au moment où je vais mourir, peu importe si je suis muni d'une grosse armure qui me protège, peu importe si j'ai des armes sophistiquées, personne ne pourra me protéger, personne ne pourra m'aider, et quand ce sera mon heure, et bien ce sera mon heure. Par contre, quand je vais affronter les grands guerriers redoutables, quand je vais affronter des armées colossales, des armées grandioses, même si je n'ai pas d'armes, si ce n'est pas mon heure, si je ne dois pas mourir, peu importe qu'il y ait en face de moi des armes extraordinaires, mais elles ne pourront pas m'atteindre, elles ne pourront rien me faire. Ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire que notre imam nous enseigne. Je voudrais terminer avec une petite anecdote. Il y avait un homme qui insultait notre septième imam, qui l'injuriait, qui lui disait n'importe quoi, tout et n'importe quoi qui lui passait par la tête. Imam restait très calme, restait très serein, et un jour il décide d'aller à la rencontre de cette personne. Et donc il va à la rencontre de cette personne et il voit que cette personne est en train de cultiver dans son champ. Alors Imam al-Islam avance vers son champ et cet homme, il est très en colère. Il dit, mais n'avancez pas sur mes cultures, vous êtes en train de détruire mes cultures, etc. Mais Imam continue et avance dans le champ. Et Imam al-Islam, quand il est arrivé à côté de cet homme, il lui dit, combien coûte tout ce que tu as cultivé? Cet homme, il devient arrogant, il se met en colère, il dit, mais moi, je ne suis pas imam, moi, je n'ai pas le ilm al-rib, je ne sais pas, moi, quelle est la valeur de ce que j'ai cultivé. Alors, Imam al-Islam lui dit, chaque commerçant, chaque agriculteur estime combien ce qu'il est en train de vendre, ce qu'il est en train de cultiver va lui rapporter. Chacun a un espoir de, voilà, je fais telle chose, et voilà ce que ça va me rapporter, etc. Et donc, il lui dit, estime à peu près combien est-ce que tu risques d'avoir pour ce que tu cultives. Et à ce moment-là, cet homme, il répond 200 dirhams. Alors, Imam al-Islam sort 300 dirhams de sa poche et il tend au jardinier. Et le jardinier est tellement étonné par les akhlaq, par le bon comportement d'Imam, que alors qu'il était un ennemi d'Imam, il devient un de ses partisans. Je voudrais maintenant vous parler très très brièvement de Hazrat Abu Talib al-Islam, puisque nous célébrons son shahadat aujourd'hui. C'est ici des captures d'écran que j'ai pris du film dont je vous avais parlé, ce film en dessin animé, où on raconte l'histoire de le tariq, l'histoire islamique. Et je trouve personnellement que c'est très intéressant parce qu'on voit en image des choses, même si ce n'est pas exactement comme ça s'est déroulé, mais c'est très intéressant. Et donc, vous avez une représentation de Hazrat Abu Talib dans ce film, où justement vous voyez ici que Hazrat Abu Talib était parmi les hautes personnalités de l'Arabie. Il faisait partie du Parlement avec Abu Jahl, Abu Lahab, etc. Et donc, il faisait partie des personnes qui décidaient. Et c'est pour cela que quand notre prophète a commencé à propager l'islam, quand il y a eu la révélation et qu'il a commencé à annoncer et à propager le message divin aux autres, vous savez que les Arabes qui étaient adorateurs d'idoles ont très mal réagi à cette nouvelle religion qui est apparue. Et du coup, les personnes qui étaient dans le parlement, Abu Lahab, Abu Jahl, etc., ils voulaient absolument faire en sorte d'arrêter, de stopper l'islam et la propagation de l'islam. Mais heureusement que Hazrat Abu Talib était dans le parlement, qu'il faisait partie des décideurs, et du coup il contrebalançait, il défendait le prophète et il essayait de contrebalancer les décisions très dures, très strictes des autres députés, si on peut utiliser ce terme-là par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait, il faisait partie des hautes personnalités et ça a été d'une très grande aide au prophète. C'est vrai que le prophète a beaucoup souffert, que les premiers musulmans ont été torturés, qu'il y a eu le boycott, etc. Mais si Hazrat Abu Talib n'était pas là, alors l'islam aurait été complètement détruit parce que, justement, ces Arabes-là ne voulaient absolument pas que l'islam puisse se développer, puisse se répandre. Donc nous avons, nous devons beaucoup à Hazrat Abu Talib al-Islam qui a fait en sorte que la religion musulmane a pu être propagée. Alors, je voudrais aujourd'hui vous parler du verset 5 de la sourate Jum'a, vendredi, numéro 62. Donc une sourate que nous récitons en général le vendredi, une sourate qui fait partie de la prière du vendredi aussi, si certains d'entre vous... si vous êtes déjà venu lors des namaz jamaat du vendredi. Donc cette sourate, ce verset du Coran qui dit: ceux qui ont été chargés de la Torah, de la Torah, hein, de Nabi Moussa, mais qui ne l'ont pas appliquée, sont comme l'âne qui porte des livres. Alors nous allons essayer de comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire en trois parties. Dans la première partie, nous verrons pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous donne beaucoup d'exemples dans le Saint-Coran, comme ici, l'exemple de l'âne, d'accord? Et qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que les exemples nous apportent dans notre vie? Ensuite, nous verrons qu'est-ce qui s'est passé aux gens à qui la Torah a été révélée, comment est-ce qu'ils ont réagi par rapport à la Torah, ce livre céleste, et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les compare à un âne qui porte des bagages. Et enfin, nous verrons, en tant que musulmans, quel est justement le message, quel est l'avertissement que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous donner ici, et comment est-ce que nous devons, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons mettre en œuvre pour ne pas répéter les erreurs de nos prédécesseurs et pour ne pas être justement comme les gens à qui la Torah était révélée et ne pas être comme des ânes qui portent des livres. Alors, nous commençons tout de suite par l'exemple. Donc, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne beaucoup d'exemples dans le Saint-Coran, beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'exemples? Et d'ailleurs, le terme par lequel commence ce verset, c'est « masal », hein, qui veut dire « exemple ». Alors, pour cela, on peut étudier le livre de Ayatollah Makarim Shirazi, qui s'appelle « Le terme masal » dans le Saint-Coran. Et dans ce livre-là, il étudie 50 versets du Coran dans lequel le terme exemple, dans lequel le terme mathal est utilisé. Et pourquoi est-ce que Allah utilise les exemples? Parce que notre cerveau fonctionne par analogie. Parce que quand on a un concept qui est difficile, qu'on a du mal à comprendre, on peut réussir à le capter, on peut réussir à le décortiquer, à le comprendre, si on utilise un exemple. D'ailleurs, dans nos conversations, quand nous voyons que les personnes en face de nous ne comprennent pas, qu'on voit d'après leurs yeux qu'ils nous regardent bizarrement, on leur dit, attends, je vais te donner un exemple. Donc, chaque jour, nous utilisons des exemples pour justement faire en sorte que les gens comprennent les concepts et les choses difficiles qu'on veut leur faire comprendre. Et justement, en Grande-Bretagne, il y a eu une étude. Des scientifiques, des mathématiciens ont voulu comprendre quel est le rôle de l'exemple dans l'apprentissage des mathématiques. Alors, ils ont pris des élèves et ils ont pris en fait deux groupes d'élèves. Avec un groupe d'élèves, ils leur ont donné des équations mathématiques avec des exemples à l'intérieur. Et à un autre groupe d'élèves, ils ont donné les mêmes équations mais sans utiliser d'exemple et ils ont comparé les deux groupes. Alors, au groupe avec exemple, ils ont donné des énoncés dans ce style que, par exemple, David Beckham rentre dans un magasin, il a tant d'argent dans son portefeuille, et il achète telle et telle chose, et en sortant, il lui reste Y euros dans son portefeuille. Donc, ils ont essayé de voir comment est-ce que les élèves réagissent. Et ils se sont rendus compte que l'exemple aide beaucoup l'élève. Et que 90% des élèves à qui on a donné l'exemple de David Beckham, des marchandises qui ont été achetées, des euros, des choses qui sont concrètes, d'accord, et bien 90% ont réussi à résoudre l'équation. Ce qui n'était pas le cas du deuxième groupe. Alors que si on réfléchit bien, il suffisait de dire X moins Y égale combien. Ce n'était pas obligé de dire il a 100 euros, maintenant il lui reste 50 euros, etc. On n'était pas obligé d'utiliser un nom. Mais le fait d'utiliser un nom, le fait d'utiliser des exemples concrets, tout de suite, le cerveau humain fonctionne différemment. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, il sait très bien de quelle façon nous procédons, de quelle façon nous analysons les choses. Et c'est pour cela que de temps en temps, dans le Saint-Coran, il nous donne des exemples. Et d'ailleurs, vous savez que quand les chrétiens sont venus voir notre Saint-Prophète, ils ont dit, nous pensons que, nous croyons que Issa alayhi salam, que Jésus est le Fils de Dieu. Quelle est votre croyance? À ce moment-là, le Saint-Prophète a dit, pour nous, Issa alayhi salam, c'est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi est-ce que vous dites qu'il est le Fils de Dieu? À ce moment, vous savez très bien que les chrétiens ont répondu, mais parce qu'il est né sans père, donc pour nous, c'est le Fils de Dieu. Et à ce moment-là, le Coran aurait pu répondre tout de suite en disant « Non, vous avez tort, ce n'est pas le Fils de Dieu, etc. » Il aurait pu être direct envers ces personnes. Mais le Saint-Coran utilise l'exemple. Il sait que par l'exemple, ces personnes pourront mieux comprendre. Et qu'est-ce que dit le Coran? Le Coran révèle tout de suite la sourate, le verset 59 de la sourate Al-Imran, sourate numéro 3 du Coran, est révélé où justement on nous dit que Nabi Issa alayhi salam est comme Adam alayhi salam. Et donc, tout de suite, ce verset nous invite à analyser le cas de Adam alayhi salam. Est-ce que Adam alayhi salam avait une mère? Non. Est-ce qu'il avait un père? Non. Alors, est-ce que c'est Nabi Issa qui mérite mieux le titre de fils de Dieu, fils d'Allah, ou bien est-ce que ce serait Adam alayhi salam? Donc, souvent, on fait appel à des exemples pour que les gens captent mieux, comprennent mieux. Par exemple, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala veut montrer qu'un savant qui n'a pas de principe, il n'est pas en paix. Mais Allah ne va pas le dire directement comme ça, comme je vous l'ai dit. Il va utiliser un exemple. Et il va utiliser l'exemple d'un érudit du temps des Bani Israël, du temps du prophète Moussa alayhi salam. C'était un érudit qui n'avait pas de principe, qui était hypocrite. Un jour, il marchait avec Pharaon, un jour, il marchait avec Nabi Moussa alayhi salam. Il était quelqu'un qui allait avec chacun. Hein? Et du coup, vous vous souvenez de cette personne qui avait l'habitude de prier avec Imam Ali alayhi salam et de partager ses repas avec Moavia. Quand Moavia faisait des grands festins, il était dans l'assemblée. Et en même temps, quand Imam Ali priait, il était derrière Imam Ali alayhi salam. Alors on lui a dit, mais il faudrait que tu saches dans quel camp tu es. Hein? Et à ce moment-là, il répond que la nourriture, elle est délicieuse, il y a de la bonne nourriture, il y a beaucoup de choses chez Moavia, donc je préfère aller manger avec Moavia. Et la prière, elle est tranquille, ça donne plaisir, etc., avec Imamoni al-Salam. D'accord? Donc pareil, cet homme-là, il allait un coup avec Pharaon, il allait un coup avec le prophète Moussa al-Salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala compare son cas à celui du chien. Pourquoi? Parce que le chien, quand vous lui donnez quelque chose à manger, il tire sa langue. Mais quand vous lui retirez quelque chose, il tire sa langue aussi. Finalement, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des exemples concrets. Et pourquoi est-ce que le chien, il tire sa langue? Parce qu'il a énormément de chaleur en lui. Et il a besoin de tirer la langue, d'ouvrir la bouche, tirer la langue pour justement évacuer toute cette chaleur qui se trouve en lui. Et c'est exactement la même chose pour la personne qui est hypocrite, qui va un coup avec l'ennemi, qui va un coup avec l'ami, etc. Parce qu'elle a énormément de chaleur en elle n'est pas en paix avec elle. Donc c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple du chien. Passons maintenant à notre deuxième partie, et donc revenons à notre verset. La Torah, était un livre céleste. Et quel est le rôle d'un livre céleste? C'est de nous enseigner, c'est de nous donner des ordres, c'est de nous donner une voie que l'on doit suivre. Et que faisaient les juifs? Que se faisaient les gens à qui la Torah était révélée? Ils lisaient la Torah, ce n'était pas ça leur problème. Ils lisaient la Torah, mais ils agissaient à l'envers. Ils n'agissaient pas comme ce qu'on leur avait enseigné, ce qu'on leur ordonnait de faire. Ils agissaient à l'encontre de la Torah. Par exemple, on disait dans la Torah que même si quelqu'un n'est pas juif, même s'il ne partage pas la même religion, vous devez l'aider si elle a un problème. Et il y avait un peuple qui s'appelait les Goyim. Et les juifs, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, si un Goyim, tu le vois en train de noyer, ne le sauve pas, ne va pas à sa rescousse. Vous voyez, ils lisent quelque chose et puis ils agissent tout à fait contrairement à ce qu'ils disent. Pareil, il y avait un verset du Coran, et sûrement du Torah, et sûrement plusieurs, qui disait qu'il fallait traiter ses servants, ses serviteurs, avec respect. Mais eux, ils maltraitaient leurs servants. D'ailleurs, vous connaissez Salman le Farsi, hein? Salman le Perse, qui était un esclave qui appartenait aux Juifs. Mais il était très maltraité par ses maîtres. Et à ce moment-là, quand le saint prophète a eu des nouvelles de la façon dont on torturait Salman le Farsi, il est allé voir le maître de Salman le Farsi et il lui demande combien est-ce que vous seriez prêt à être payé pour que j'achète Salman avec vous. Et à ce moment-là, le maître de Salman, il demande 300 dattiers et 40 onces d'or. Hein? 40 onces d'or, ça fait un peu plus d'un kilo d'or. Et à ce moment-là, le Saint-Prophète demande à ses compagnons, qui est-ce qui voudrait bien faire don de palmiers? Et il y en a qui disent, moi je donne 20, moi je donne 30, moi je donne 40, etc. Et c'est comme ça que le Saint-Prophète réussit à collecter les 300 dattiers dont il a besoin. Et ensuite, c'est lui-même qui va contribuer pour donner le kilo d'or pour justement pouvoir acheter celle-là. Donc vous voyez que dans cette communauté, les gens lisaient bêtement le livre, mais ne le respectaient pas, n'allaient pas en conformité avec le livre. Donc la subhanahu wa ta'ala compare ces gens-là à un âne qui transporte justement des livres. Parce que si je mets des livres sur le dos d'un âne, et que je lui dis, est-ce que tu sais ce que tu transportes? Bien sûr, il va me dire que non. Si je lui dis, Anne, tu as plein de livres sur ton dos, est-ce que tu les as lus? Est-ce que tu les appliques? Bien sûr qu'il va me répondre non, s'il arrive à me répondre déjà. Mais bien sûr, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala compare avec quelqu'un. C'est comme si on transportait le Coran, on amène, on ramène, mais si on arrive, on ne l'applique pas, ça ne sert à rien. Puisque le livre n'a pas été donné pour ça. Ça n'a pas été pour qu'on ouvre, qu'on ferme, et que justement c'est fait pour qu'on l'applique. Et justement, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un tel verset? C'est pour que justement, nous ne répétions pas les mêmes erreurs. C'est pour nous donner un avertissement, pour nous dire, vous avez un livre saint, vous avez le Coran, agissez conformément au Coran. D'accord? Et en effet, nous avons tellement de livres. Nous avons le Narbut Balada, nous avons le Coran, nous avons ces livres d'invocation, etc. Nous avons énormément de trésors en ligne. Aujourd'hui, sur Internet, nous avons énormément de livres. Nous avons énormément de possibilités d'acquérir de la connaissance. Et donc, c'est vrai que tous les bagages sont là. C'est vrai que tous ces outils sont là à notre disposition. Mais est-ce que nous les utilisons? Est-ce que nous les appliquons dans notre vie? C'est la question que nous devons nous poser. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran que la corde du menteur, qu'il déteste les menteurs. Est-ce que nous respectons ce verset? Est-ce que nous essayons d'enlever cette habitude en nous? Et comme vous savez, Imam Ali alayhi salam dit que la corde du menteur, elle est très courte. Pourquoi? Parce que si j'ai l'habitude de mentir, je vais dire telle chose à quelqu'un, je vais dire telle autre chose à quelqu'un d'autre, et à un moment donné, on verra très bien que ça ne colle pas, vu les différentes versions que j'ai données à un tel ou à un tel. Vous voyez? Donc, finalement, le menteur, il se retrouve enfermé dans son propre piège. Il n'arrive pas à avancer. Et donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à ce que, à partir de maintenant, quand nous lisons un verset du Coran, nous essayons de l'appliquer dans notre vie. Quand nous écoutons un takrir, quand nous allons à un dars, etc., nous essayons d'appliquer ce qu'on nous dit. Et si on réfléchit, et je vais terminer avec ceci, si on réfléchit bien, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple de l'âme, ce n'est pas innocent non plus. Il aurait pu nous dire, c'est comme un chameau qui transporte des livres. D'accord? Mais pourquoi est-ce qu'il choisit l'âne? Parce que personne n'a envie d'être comparé à un âne. Si je vous dis, t'es un âne. D'ailleurs, dans certaines langues, comme par exemple la langue arabe, si je dis, tu es un âne, c'est une insulte. Hein, c'est des insultes qu'on se lance parce qu'on est en colère contre quelqu'un. Donc, l'âne est un animal. Par exemple, si il y a des gens qui aiment beaucoup les chevaux, à qui ça ne dérangerait pas qu'on les compare à des chevaux, par exemple. Mais alors, un âne, il n'y a personne qui aimerait être comparé à un âne. Vraiment personne. Et vous vous souvenez d'ailleurs, dans nos écoles, où justement, quand un élève était turbulent, avait un mauvais comportement, ou n'apprenait pas ses leçons, on lui faisait porter le bonnet d'âne, hein, et on le mettait au coin, etc. Et tout le monde avait peur, tout le monde craignait d'être dans cette situation. Donc les élèves, ils apprenaient bien leurs devoirs, ils tâchaient d'arriver à l'heure, etc. Ils apprenaient leurs leçons, ils faisaient les devoirs et tout, parce qu'ils avaient très très peur d'être maltraités, d'avoir ce bonnet d'âne sur leur tête, parce que c'était vraiment la catastrophe. Et justement, donc l'histoire de l'âne, hein, on voit très bien que l'exemple de l'âne a été minutieusement choisi.